président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Pas de rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, car ici ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maribin. J'étais blessé chez mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. La rage.
La rage. Chers auditeurs de La Rage Dedans, aujourd'hui je reçois Jean-René, nous allons parler de fret. SNCF, et surtout, nous allons parler de souffrance au travail.
On va quand même plutôt parler de fret SNCF, mais ça rejoint la souffrance au travail, oui.
Voilà. Qui était Bruno Rejoigny?
Alors, Bruno Rejoigny, on en a entendu parler dans les médias pendant les fêtes. C'est ce conducteur de train, militant cégétiste, professionnellement irréprochable et militant cégétiste aussi de grande valeur, de Saint-Étienne. Conducteur de TGV dans son dernier état, qui est mort le 24 décembre, retrouvé 3 km derrière son train, qui a donné... On en a entendu parler parce qu'évidemment... Toute la presse, le ministre, le nouveau ministre
des transports,
a dit que c'était terrible, tous ces gens qui étaient restés bloqués dans le train, etc. Bruno Rejoigny, et puis la manière avec laquelle ça a été traité est assez scandaleuse de la part de la SNCF et du ministre. Il est tombé du TGV, de la porte d'accès à sa cabine de TGV. Alors, il y a deux solutions. Ou c'est un accident, ou c'est un suicide. Si c'est un accident, ça voudrait dire que la porte du TGV fermait mal. Il a estimé qu'il pouvait... alors, je ne vais pas expliquer la configuration d'une cabine de TGV, mais qu'il pouvait faire trois pas en arrière, lâcher son poste de conduite, faire trois pas en arrière pour refermer la porte, et il aurait été happé par le souffle et il serait tombé, ce serait un accident et ça poserait quand même le problème d'un accident de travail et de la configuration du matériel qui a pu permettre ça. Et autre possibilité, ce serait un suicide. Et si c'est un suicide, ça renvoie à la question de la souffrance au travail. Puisque quelles que soient les différentes choses qui peuvent motiver un suicide, généralement si on se suicide c'est que plus rien ne tient, ni la dimension personnelle ni la dimension du travail, et donc se pose quand même la question du travail, qu'est-ce qui fait que le travail n'aurait pas été un soutien à ce moment-là. Ce qui est scandaleux dans le traitement par le ministre et la presse de ça, c'est que immédiatement, manifestement sur l'instigation de la SNCF, le ministre a osé dire je parle au conditionnel parce qu'on peut pas savoir, n'empêche qu'il l'a quand même dit, mais ce serait des problèmes personnels, donc on dirige les gens, on dirige l'opinion vers un suicide, et vers un suicide pour des raisons personnelles, bien sûr, pas pour des questions d'organisation du travail ou de perspective du système ferroviaire Et justement, on va pouvoir revenir durant cette émission à travers la question du fret sur la casse du ferroviaire en France depuis de très nombreuses années déjà.
Alors, Jean-René, tu es de Sudrail ?
Moi, oui.
Tu peux présenter un tout petit peu ton syndicat
oui.
en quelques mots ?
Alors, moi je suis à Sudrail, je suis au bureau fédéral de Sudrail, mais là j'interviens en tant que sympathisant de la Fédération anarchiste, en tant qu'ancien membre honoré d'avoir été un ancien membre du groupe Louis Michel qui fait cette émission. Et alors, mon métier n'est pas un métier spécifiquement ferroviaire, puisque je suis juriste. Mais depuis 29 ans, 92, donc quelque chose comme ça, à la SNCF, et dans ma militance au sein de Sudrail, j'ai toujours été à Sudrail, j'étais pas dans d'autres syndicats. Je pense avoir une certaine connaissance et une certaine maîtrise du système ferroviaire.
Bien. Alors, on va revenir sur tout ce qui est la perte de pouvoir d'agir des salariés sur leur lieu de travail et dans la SNCF en particulier.
Oui. Je ne prends pas la thèse du suicide de Bruno Regioni, hein, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est un militant syndicaliste, hors pair, comme il y en a plein, et à la CGT et à Sudrail. Et je rappelle que le pouvoir des syndicats ou le pouvoir d'agir des syndicats dans les entreprises résulte de point 8 du préambule de la Constitution de 1946, donc une époque où s'installe ce qu'on a appelé le compromis d'après-guerre entre dans le rapport de force entre le monde salarié et le monde patronal. Et la Constitution de 1946, qui est présentée comme la Constitution française la plus sociale, avait posé quand même certains éléments, et notamment dans ce point 8 du préambule, il y a le droit des salariés, par l'intermédiaire de leurs délégués, de participer de la définition des conditions de travail, d'une part, et d'autre part, de participer à la gestion de l'entreprise, ce qui avait donné lieu dans les instances représentatives du personnel dans les entreprises, à, d'une part, les comité d'entreprise qui avait la dimension économique et d'autre part les DP, les délégations du personnel, puis les CHSCT et surtout les CHSCT, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, qui étaient la dimension intervention sur les participation à la définition des conditions de travail. Cette séquence de termes est quand même assez forte. Rappelons qu'en 2017, avec la loi travail et après les ordonnances Macron, les CHSCT ont été supprimés, que désormais nous sommes sous l'empire en termes d'institutions représentatives du personnel, de CSE, de comités sociaux et économiques, mais comme tout langage patronal, c'est pas parce que le S est d'abord social et économique ensuite que c'est social. En fait, ce sont des super instances qui, derrière, ils ont prétendu que c'était la réunion des trois anciennes instances, et puis en fait, effectivement, ce sont des super instances qui traitent essentiellement des dossiers économiques et des dossiers économiques sous l'angle consultation, c'est-à-dire que l'employeur informe et consulte les organisations de salariés, et puis quel que soit l'avis de l'organisation des salariés, de toute façon, il a le pouvoir de continuer à faire ce qu'il veut. Alors que dans les anciennes instances, sur les conditions de travail, les CHSCT, il y avait des outils, des prérogatives des membres du CHSCT qui donnaient un pouvoir d'agir beaucoup plus important des représentants syndicaux et des représentants des élus du personnel sur les conditions de travail, sur le très concrètement, sur la vie quotidienne des salariés. Les CSE à la SNCF, ils ont été mis en place à partir de 2019. La SNCF a été une des premières grandes entreprises à mettre en œuvre les CSE. Et ce sont des CSE absolument monstrueux. En fonction des différentes activités de la SNCF que je détaillerai un peu plus tard, ce sont des CSE de plusieurs milliers de personnes et les gros CSE structurants représentent entre 10 000 et 15 000 personnes et couvrent le quart de la France, voire la France entière. Et donc, on a eu une réduction des mandats de représentants du personnel, toutes instances confondues, de presque 80%. Alors, comme il y avait des cumulards avant, ça correspond sans doute à une baisse de 75-70% de mandatés à un titre ou à un autre, de représentants du personnel mandatés à un titre ou à un autre de ces instances. Mais ça vous dit quand même la restriction du nombre de représentants du personnel. Et donc à la SNCF, qui est quand même très syndicalisée, de représentants syndicaux pour agir. Et ils sont complètement phagocytés par toute la bureaucratie de l'instance. Et de fait, on a créé des permanents qui sont des élus permanents qui sont noyés sous la gestion administrative des dossiers dans lesquels on n'a pas de pouvoir. D'imposer à l'entreprise quelque chose une partie de la militance active dans les syndicats, y compris à Sudrail, même si nous sommes probablement à la SNCF le syndicat qui reste le plus relié au terrain. Malgré tout, les forces vives des syndicats ont été noyées là-dedans et noyées surtout avec une absence de pouvoir d'agir qui est proprement déprimante. Et comme l'engagement syndical, c'est pas aux auditeurs de Radio Libertaire que je l'apprendrai, c'est un engagement qui nous prend tout entier. Quand on est dans cet engagement-là, qui implique toute notre personne, toute notre subjectivité, nos passés, nos actions, notre présent, notre vision du futur, et qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à organiser, qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose, qu'on n'arrive pas à mobiliser les collègues dans des luttes particulières pour ne pas perdre, voire gagner, c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur, psychologiquement parlant. Et il y a une vraie souffrance au travail des militants syndicaux et des élus aujourd'hui à la SNCF, et en particulier à Sudrail et à la CGT.
Alors, la SNCF aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, quand on dit la SNCF, ça fait un certain moment que ça n'existe plus, c'est-à-dire que le système ferroviaire a commencé à être démantelé. Il faut d'abord parler de ça, il ne faut pas parler nécessairement de privatisation, mais de démantèlement du système ferroviaire. Alors, pour une petite explication sur le système ferroviaire, ses enjeux, ses évolutions, etc., je vous renverrai volontiers à une émission de Groupe Louis Michel du mardi 28 mai 2013. Qui est sur le site, je suis sûr. Été invités, moi et un camarade, Philippe Mühlstein. Et donc, voilà, mon point de repère, je vais pas le citer ici parce qu'il est triste, mais je sais que c'est la mission du mardi 28 mai 2013. Donc, je renvoie les auditeurs au site du groupe Louis Michel pour qu'ils aient une petite vision un peu plus précise du système ferroviaire. Mais, donc, jusqu'à 1997, la SNCF, entreprise unique, porter l'ensemble du système ferroviaire qui a un intérêt technique, social et économique à être unifié. En 97, on a créé RFF, Réseau Ferré de France, qui était où on lui a donné en patrimoine le réseau ferroviaire, c'est-à-dire l'infrastructure, les voies et bâtiments. Mais RFF immédiatement a confié la gestion, l'entretien, la maintenance à la SNCF. Ce qui fait qu'il y avait une situation, c'était déjà le début d'une casse, mais c'était une situation où l'ensemble des métiers ferroviaires restaient à la SNCF. Et puis, en 2014, mise en œuvre 2015, il y a eu une nouvelle réforme du système ferroviaire qui a, elle, cassé la SNCF en trois. C'est-à-dire qu'on était de deux entités, RFF et SNCF, on est passé à trois entités. SNCF Réseau, qui était l'infrastructure, SNCF Voyageurs, qui sont les services ferroviaires qu'on fait sur cette infrastructure, services ferroviaires voyageurs ou fret. Et puis, une SNCF qu'on appelait SNCF tout court ou SNCF de tête, qui était censée garder l'unité, un petit peu, la coordination des deux autres SNCF. C'est-à-dire on est passé de 2 à 3 et on a appelé ça la réunification. Le langage du pouvoir est toujours le langage...
Novlangue.
Voilà, c'est ça. Donc quand on passe de 2 à 3, on réunifie. Et puis en 2020, jusqu'à maintenant, tout ça, c'était des EPIC, des établissements publics, industriels et commerciaux, donc les entités du droit administratif. Et puis en 2020, on a basculé dans le champ du droit des sociétés classiques, c'est-à-dire de 3 entités publiques, on est passé à 5 sociétés anonymes, qui étaient d'une part la SA Holding, d'autre part la SA Réseau, d'autre part la SA Voyageurs. On a séparé les gares qui faisaient la quatrième SA, et les gares, on les a mis comme filiales de Réseau. Et on a séparé Fret, puisque c'est une émission sur le fret, on a séparé Fret dans une SA particulière, alors que dans l'étape d'avant, elle faisait partie des services ferroviaires au même titre que les voyageurs. Et ça fait 5 entités. En 2024, on a créé une 6e entité, c'est-à-dire qu'on a sorti de la SA Holding toutes les fonctions dites transverses, les fonctions RH, les fonctions de paye, l'action sociale, la gestion des facilités de circulation, etc., etc. Dans un GIE, donc ça fait 6 entités qui s'appelaient SNCF, qui ensemble s'appellent SNCF, mais qui sont distinctes. Et puis on voit bien que la logique est une logique de d'éclatement. Hein. Et puis, de 6, on repasse à 5, puisque, comme on va le voir là maintenant, Fret SNCF est désormais sorti complètement du giron de la SNCF. Et il faut bien comprendre que l'éclatement du système ferroviaire a un coût économique, un coût social et un coût technique important, parce que le système ferroviaire est un système extrêmement contraint, très rigide, qui ne peut donner quelques éléments de souplesse que s'il y a une unité de stratégie et d'action, c'est-à-dire si c'est la même personne qui a tous les leviers en main. Pour assurer les meilleurs arbitrages entre la maintenance du réseau, les différents services, est-ce qu'on fait passer en train de fret ou en train de voyageurs, voyageurs rapides, grandes lignes ou voyageurs régionaux, etc., etc.
Eh bien, écoute, précision, GIE,
Groupement d'intérêt économique.
Voilà.
C'est l'association de différentes entreprises qui mettent ensemble des moyens. Alors, c'est une entité qui a une personnalité juridique différente.
D'accord.
Mais elle est constituée par des entités. En l'occurrence, c'est un GIE constitué avec les autres SA, SNCF.
Alors, avant la pause musicale, Jean-René, je voudrais que tu expliques très brièvement ce que sont les activités du fret.
Oui, parce que ça va vous permettre de quand on reviendra sur l'historique du fret, de mieux comprendre. Aujourd'hui, l'activité fret, elle est segmentée en 4 natures de trafic. Il y a d'une part les trafics, les trains complets de bout en bout. Il faut imaginer comme exemple ArcelorMittal qui produit de l'acier, qui produit de l'acier pour une entreprise automobile, par exemple. Ce sont des grandes quantités et ArcelorMittal est embranché, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure ferroviaire qui va jusqu'à l'usine. Peugeot, si c'est Peugeot, est embranché aussi. Le train peut rentrer jusque dans l'usine de Peugeot. Et il y a des trains complets qui vont directement de l'usine d'ArcelorMittal à Peugeot. Et donc, on peut organiser un plan de transport avec... Il y a une loco qui vient chercher un train déjà plein de plusieurs centaines, milliers de tonnes et plusieurs centaines de mètres directement chez l'expéditeur et qui l'amène chez le destinataire. Et c'est la nature de trafic qui est la seule un petit peu rentable dans le système ferroviaire. Il y a une autre nature de trafic qui sont les transports combinés. Le transport combiné, ce sont les containers, les caisses mobiles, qui représentent, qui sont majoritaires pour le commerce international. Hein. C'est les containers qu'on voit empilés par centaines sur les super porte-containers qui traversent les mers. Il arrive dans des ports et du coup du bateau on peut les mettre sur un camion, on peut les mettre sur un train puisqu'on parle de train aujourd'hui. Imaginons qu'ils sont d'abord mis sur un train et puis ils arrivent ensuite sur une plateforme où la fin du trajet, le conteneur est sorti du train et posé sur un camion qui va l'amener en usine. Donc il y a une certaine massification possible avec les conteneurs. La problématique du trafic de conteneurs, c'est que il y a des manipulations régulières. L'intérêt du conteneur, c'est qu'il peut changer de mode de transport, bateau, train,
camion.
Le coût supplémentaire, c'est qu'à chaque fois, il faut une manutention pour le transporter d'un mode de transport à un autre. Et ça, à la SNCF, ça a été confié à une filiale de la SNCF, qui s'appelle CNC, la Compagnie Nationale des Containers. Novatrans CNC, pardon. C'est Novatrans maintenant la marque qui est derrière ça. Et c'est la deuxième nature de trafic. Il y a une troisième nature de trafic qui est ce qu'on appelle le ferroutage, les autoroutes ferroviaires. Là, c'est un peu curieux parce que on le met... En fait, ça consiste à mettre les camions sur le train pour leur faire parcourir des longues distances. Alors, ou bien on met le tracteur et la remorque sur le train, ou bien on met que la remorque sur le train. Alors, c'est du ferroviaire, parce qu'à un moment donné, c'est le train qui roule sur les rails, mais il faut le penser comme un moment ferroviaire d'une organisation du transport routier. On reviendra dessus, mais c'est par exemple ce que fait la Suisse et l'Autriche qui ont dit nous on veut pas avoir des camions qui traversent nos pays. Donc il y a des plateformes où on met les camions sur le train avant la frontière suisse. On leur fait traverser la Suisse par le train, puis le camion ou la remorque se fait récupérer à l'autre bout. On la descend du train et le trajet routier continue. Ou l'Autriche aussi fait ça. Donc en France, c'est repéré comme les autoroutes ferroviaires. Et il y en a quelques-unes qui traversent essentiellement la France depuis la frontière franco-luxembourgeoise ou franco-allemande ou franco-suisse ou franco-belge, pardon, au niveau de Wapie, notamment, en Lorraine, là-bas, de Thionville, et qui traverse la France jusqu'à la frontière espagnole, ou bien, alors soit côté Perpignan, soit côté Irun, puisque la caractéristique de la France est aussi est d'être un espace de traversée de trafic internationaux. Et ça, c'est fait par une filiale qui s'appelle VIA, V-I-A-A, Voie, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est aussi une filiale SNCF. Et puis, il reste, quatrième nature de trafic, ce qu'on appelle le wagon isolé. Le wagon isolé, ben, c'est un client qui a juste de quoi remplir un ou deux wagons. Alors, ou bien il est embranché, c'est-à-dire que la voie ferroviaire va jusque dans son usine, ou bien il amène sa marchandise dans une gare marchandise qui est encore ouverte. Et où des wagons sont là à attendre à être chargés. Et les wagons isolés, ben, comme son nom, il faut les rassembler. C'est-à-dire qu'il y a un petit locotracteur qui, sur une zone, va chercher trois wagons par-ci, deux wagons par-là, etc. Il l'amène nécessairement dans un centre de triage où là, les wagons sont recomposés en train par rapport à leur destination. Ils arrivent sur un autre triage à l'arrivée et là on les redispatche où il y a un petit locotracteur qui fait sa tournée et qui redispatche le wagon qui venait de l'usine A en Bretagne et qui était destiné à l'usine B ou à un centre de consommation B à Istres par exemple. Il y a ce wagon-là qui est distribué, et puis les autres wagons qui sont distribués partout sur l'aire, sur l'aire d'arrivée. Le coût de ce trafic-là, c'est que c'est pas simplement de la manutention d'un conteneur, comme tout à l'heure. C'est que il faut un locotracteur qui fasse la tournée, qui récupère les wagons, assembler un train, faire la partie de triage à triage par le train formé, et puis après déformer le train, si j'ose dire, et puis assurer la desserte de chacun des wagons. Donc tout ça coûte cher. Et c'est la quatrième nature de trafic qui par contre est celle qui est la plus en concurrence avec la route, puisque on va chercher des entre guillemets petites quantités éparpillées. C'est là où le camion lui va chercher ce qu'il faut directement à l'usine et puis il l'amène directement chez le destinataire. Oui.
D'accord. Alors Jean-René, nous allons revenir sur le fret qui est l'objet de cette émission et tu vas nous faire un rappel historique rapide de l'évolution du fret depuis 2005.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fret, enfin, en France, il y a une politique quand même anti-ferroviaire, en particulier par rapport au fret. Il y a un choix qui a été fait pour la route depuis le début, et puis un choix en plus qui s'est personnifié dans les dernières dizaines d'années, avec deux personnages emblématiques. D'une part, une certaine Elisabeth Borne, qui est dans tous les mauvais coups du ferroviaire, et en particulier tous les mauvais coups du fret, depuis qu'elle existe, si j'ose dire, enfin depuis qu'elle existe dans aux différents pôles de l'administration. Et puis, côté SNCF, un certain Guillaume Pépi, qui a quand même sévi...
Un certain nombre de dizaines d'années,
pas toujours les 8 dernières années en tant que président de la SNCF, mais avant il était directeur général exécutif et puis avant enfin il a toujours eu des postes de responsabilité au sein de la SNCF. Donc il y a un choix très clairement pour la route et contre le fret. Ce qui fait que le fret ferroviaire, ça a toujours été l'enfant pauvre d'une SNCF elle-même pauvre. Moi, je suis rentré à la SNCF en 92. Déjà, quand je suis rentré en 92, j'entendais des discours sur le wagon isolé, comme je viens de vous l'expliquer. Il faut plus faire du wagon isolé, ça coûte trop cher, etc. Quand on discutait avec des collègues qui étaient la comptabilité dans ce qui n'était encore qu'une activité non séparée du fret, ils nous expliquaient que dans la comptabilité du fret, tous les postes de charge qui ne pouvaient pas être affectés spécifiquement aux autres natures d'activité, ben on les mettait sur le wagon isolé. Donc c'est plus facile comme ça de montrer que le wagon isolé perd des milliers et des cents. Si tous les coûts qui ne peuvent pas être attribués spécifiquement aux autres, on les met sur le wagon isolé. Et puis, comme les wagons isolés, c'est ça qui justifiait l'ensemble de l'architecture des triages en France, où il y en avait quand même quelques dizaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 ou 4 en service, des triages en France. Le haro sur le wagon isolé, ça servait à avoir une perspective de réduction de toute l'infrastructure qui permettait de faire des transports, qui permettait un maillage des trafics fret assez évidemment pertinent. Et puis le fret, il suit aussi l'évolution des zones industrielles. Alors certes, il y a des trafics qui étaient traditionnellement du fret, le charbon, l'acier, enfin les gros pondéreux qui n'existent plus. Mais il y a aussi les implantations de certaines usines qui ne sont plus là où elles étaient avant. Et l'infrastructure ferroviaire n'a pas suivi l'implantation de ces usines. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de logistique, de centres logistiques. N'importe qui roule sur des autoroutes voit régulièrement sur le bord d'autoroute des grands entrepôts qui sont à l'intersection d'autoroutes. Et ces grands entrepôts, qui sont pourtant des endroits où des marchandises arrivent en camion en grande quantité, repartent en camion en grande quantité aussi, si c'était des plateformes qui étaient embranchées au système ferroviaire, on pourrait au moins imaginer la possibilité technique que ce soit des trafics ferroviaires plutôt que des trafics routiers. Là, quand vous avez des grandes plateformes logistiques qui sont que en accès routier, ben vous pouvez dire je préférerais le fret au routier, il n'y a même pas la possibilité technique de le faire. Donc il y a eu en termes d'investissement public par rapport à des infrastructures de transport, il y a eu un choix très clairement depuis la fin de la guerre fait au profit du routier contre le fret. Et puis, depuis 2005, il y a eu
l'ouverture
à la concurrence de tous les trafics fret, non seulement internationaux, mais également nationaux. Et ça s'est traduit comment ? Avant, par rapport aux différentes natures de trafic que je vous ai décrites, il y avait des trafics qui gagnaient un peu d'argent, puis d'autres qui perdaient de l'argent. Avec les systèmes de péréquation, qui sont propres aux services publics, eh ben, les trafics qui gagnaient un peu d'argent finançaient les trafics qui en perdaient.
Ou qui en gagnaient moins, plutôt.
Qui en perdaient. Non, faut dire les choses. C'est-à-dire que la pertinence du transport ferroviaire, de fret ferroviaire, il est à l'échelle d'une nation, il est à l'échelle des comptes d'une nation. Hein. Il n'est pas à l'échelle des comptes d'une entreprise.
D'accord.
Et donc, que font les concurrents quand ils viennent sur un nouveau marché qui s'ouvre ? Ils viennent concurrencer l'entreprise en place sur les marchés qui gagnent de l'argent. Personne ne vient proposer une nouvelle offre ferroviaire pour les frais de ferroviaire sur des natures de trafic qui perdent de l'argent. Donc, il s'est passé ce qui naturellement se passe, c'est-à-dire un écrémage des trafics, c'est-à-dire que les concurrents ont commencé à venir prendre les trafics qui gagnaient de l'argent, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les trains complets au début de mon exposé tout à l'heure. Et donc, les filiales de la DB, DB Cargo, qui en France s'appelle ECR, Euro Cargo Rail, ou les filiales des chemins de fer néerlandais, ou les filiales parce qu'en plus, c'est une concurrence qui est organisée entre filiales d'entreprises publiques de chacun des pays. Mmh. C'est même pas des entreprises privées. Hein. Et chacun allant se faire concurrence sur le terrain de l'autre. Ou bien la SNCF qui a créé des filiales de droit privé pour prendre les marchés qui rapportent, les trafics qui rapportent. Et puis, ce qui reste à la SNCF a dit au bout d'un certain moment, moi je ne peux pas continuer à ne garder, je ne peux pas me faire tailler des croupières sur les trafics qui rapportent du fric et ne garder que les trafics qui en perdent. Donc, je supprime des trafics qui en perdent. Et donc, ce mécanisme-là, au total, fait que la part du transport ferroviaire, du transport de fret ferroviaire, toutes entreprises confondues, a baissé en France. En 2005, à l'ouverture de la concurrence, on était à 19-20% de la part du fret. De la part du fret ferroviaire dans la part des transports de marchandises, tous modes confondus. Et 20 ans plus tard, on était à 10% et aujourd'hui on est à 7-8% de la part de marchandises qui est transportée par le fer. Donc c'est l'écrémage du trafic. Donc alors la SNCF fret SNCF détenait encore 50% presque 50% de la part du transport de marchandises ferroviaires, mais le gâteau complet ayant baissé, ça donne la mesure de la décroissance de l'utilisation du transport ferroviaire pour le transport de marchandises. Ça, c'est la grande tendance. Et puis en 2023, réforme de 2020, la SNCF, on isole le fret ferroviaire dans une société unique qui est une SAS, une société anonyme simplifiée, mais on l'isole. Et la SNCF en profite pour remettre les comptes à zéro, si j'ose dire, et faire que fret SNCF parte en 2020 dans la concurrence avec des comptes à peu près assainis. Au passage, je rappelle qu'entre 2005 et 2020, on est passé de 15 000 agents à 5 000 agents. Pour donner aussi la mesure sociale de la décroissance du fret ferroviaire et de l'effort de productivité, comme on dit, qu'on a exigé des cheminots pour le transport de ferroviaire, le transport de marchandises par fer. Et en 2023, la commission, enfin, on nous présente une enquête de la Commission européenne pour aide d'État illégale au fret, c'est-à-dire que la remise à zéro des comptes du fret, ce serait des aides d'État illégales qui potentiellement, au bout d'une procédure dont en 2023 on n'était qu'au tout début, potentiellement pouvait amener à exiger la restitution de 5 milliards d'euros par l'État français qui correspondait à la remise à zéro, si j'ose dire, des comptes du fret, en lui attribuant une certaine part de la dette dite du ferroviaire, qui n'est pas une dette du ferroviaire, qui est une dette du service public du chemin de fer, donc en fait une dette d'État, mais qui, comme le système ferroviaire a été isolé dans une entreprise, on fait comme si c'était la dette de l'entreprise. Et la SNCF s'est saisie de cette perspective-là pour dire « Ah ben j'ai la solution », qui est une solution dite de discontinuité, c'est-à-dire que si on supprime fret SNCF tel que ça existait en 2023, et si on crée une autre entreprise avec qui est franchement organisée différemment, qui n'a plus les mêmes trafics, etc., on crée une discontinuité juridique entre le fret SNCF qui fait l'objet de l'enquête par la Commission européenne et la nouvelle entité, et on échappe à toute sanction. En fait, ce dont on s'est aperçu en demandant une enquête parlementaire qui a eu lieu précisément en 2023, c'est que la pseudo-enquête de la Commission européenne, qui est réelle, n'était qu'un prétexte, parce qu'en fait, la SNCF avait pensé ce système de discontinuité qui va amener à la casse définitive de fret SNCF, l'avait pensé dès 2019. Et en fait, c'est pas elle qui l'avait pensé directement, elle l'avait fait penser par d'autres, par des consultants extérieurs, et je vous le donne en mille, le consultant extérieur qui avait pensé à cette solution-là, c'est un certain cabinet McKinsey.
Alors McKinsey,
par exemple.
Oui, McKinsey qui a été perquisitionné, qui fait l'objet d'enquête d'un juge courageux,
ouais,
qui est le juge Serge Tourner, et qui s'occupe du financement de McKinsey de la campagne, des deux campagnes présidentielles d'un certain Emmanuel Macron.
D'un certain Emmanuel Macron. Bon, donc tout ça pour dire que en fait, ce qui a été mis en œuvre au 1er janvier, au 15 décembre 2024, là, c'est en fait le prétexte, c'est l'enquête de la Commission européenne, mais c'est l'aboutissement de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un choix politique français pro-route et anti-rail pour le transport de marchandises. Parce que la discontinuité, ça consistait à faire que fret SNCF soit obligé de céder à la concurrence les 23 trafics qui, grosso modo, sont les 23 trafics qui rapportent du fric. Et obligé de les céder, hein. Obligé de les céder, et le cas échéant, si la concurrence n'a pas encore les moyens humains et matériels pour le faire, eh ben, il faut leur prêter nos locaux, il faut leur prêter nos conducteurs, il faut tirer les trains pour eux. Cette cession des 23 flux était assortie d'une interdiction pendant 10 ans de revenir des marchés et des clients sur cette nature de trafic qui, je le répète, sont les seuls trafics qui rapportent un petit peu de fric dans le transport ferroviaire. C'est-à-dire, c'est vraiment Belen d'Est Carthago, hein, on détruit Carthage et puis on répand du sel dessus pour que surtout ne rien ne repousse à l'intérieur d'une entreprise publique.
Alors c'est pour ça que vous êtes allé manifester.
Je continue là-dessus. Donc, il y a vraiment un aspect de punition extrêmement fort et très très mal vécu par, évidemment, l'ensemble des cheminots et en particulier ceux du fret. Et puis, on a créé deux nouvelles entreprises qui récupèrent les activités qui restent, mais donc les activités qui sont essentiellement celles de trains isolés, qui sont celles qui ne gagnent pas l'argent, qui en perdent. Une société qui assure ces services ferroviaires-là, qui s'appelle Xafret, et puis une société qui est spécialisée dans la maintenance du matériel ferroviaire du fret, qui s'appelle Technis, et qui sont deux sociétés dont la viabilité économique n'est même pas assurée. Et en plus, ces sociétés-là sortent de du groupe public ferroviaire. Donc elles sont désormais de l'entreprise pour l'instant avec des capitaux publics, mais dans le plan, il y a déjà la recherche d'un actionnaire privé minoritaire qui va devenir un actionnaire privé majoritaire certainement à un moment donné. Et le fret ferroviaire public aura à ce moment-là complètement disparu. Et alors, le mouvement social qui est un demi-échec ou une demi-réussite, je ne sais pas dans quel sens, enfin, globalement, c'est... Ouais, ok. En fait, il y a ce sujet-là, puis en même temps, il y a l'ouverture à la concurrence des services de voyageurs à travers les mises en lot et l'attribution des lots des services TER voyageurs, l'ouverture des services librement organisés, grandes lignes est déjà fait, c'est ce qui permet à Trenitalia ou la Renfe de venir, là encore, tailler des croupières à la SNCF sur la seule ligne vraiment rentable en France, qui est Paris-Lyon. Et évidemment, ils viennent concurrer la SNCF que sur cette ligne-là, qui est déjà à la limite de la saturation. Et ils ne viennent pas desservir Chambéry, le fin fond de la Lorraine, Remiremont, par exemple, ou bien les Sables d'Olonne, ou des choses comme ça. On va arriver sur le transport de voyageurs longue distance sur les mêmes phénomènes où la SNCF va finir par dire ben moi j'arrête de desservir Annecy et Chambéry parce que ça me rapporte pas d'argent, donc je fais du Paris-Lyon comme les autres, et puis Annecy et Chambéry, on pourra toujours aller à Chambéry, de Paris à Chambéry par exemple, mais en changeant à Lyon et en prenant un TER de Lyon à Chambéry, il y aura plus de relation de desserte directe entre Paris et Chambéry. Puisqu'il y a en France une dizaine de relations directes TGV qui, dans la manière avec laquelle la comptabilité est faite aujourd'hui, sont bénéficiaires. Toutes les autres sont en fait déficitaires si on les prend toutes seules. Si on les prend dans une perspective globale. C'est-à-dire que dans le Paris-Chambéry permet d'assurer aussi un Paris-Saint-Exupéry, etc. Ou bien Saint-Étienne, pour revenir à ce militant cégétiste mort pendant les vacances, qui était du dépôt de Saint-Étienne. Le Paris-Saint-Étienne permet aussi de faire un Paris-Lyon. Bon, alors ils veulent nous supprimer le Paris-Saint-Étienne direct. Hein. Mais si on prend la relation telle qu'elle toute seule, la relation Paris-Saint-Étienne est déficitaire, la relation Paris-Chambéry est déficitaire, il n'y a que la relation Paris-Lyon qui serait rentable. Bon. Et au 15 décembre, il y a d'une part le fret qui part complètement, comme je viens d'expliquer, et puis il y avait la mise en exploitation, c'est-à-dire très concrètement le transfert des agents sur l'étoile TER de Nice, dans la filiale dédiée SNCF à ça, et l'étoile d'Amiens, et puis le tram-train au sud de Nantes. Et on disait qu'on pouvait pas laisser partir les collègues comme ça sans faire une action. Alors cette action, elle n'a pas donné lieu à la grève générale, insurrectionnelle et réappropriatrice
qu'on
souhaitait tous. Malgré tout, la pression qu'on a réussi à instaurer, de manière unitaire d'abord, et puis bien sûr l'UNSA et la CFDT nous ont lâchés au bout d'un certain moment, elle a quand même permis d'obtenir des conditions de transfert précisément des collègues du fret meilleures que ce qui était prévu. Que la boîte avait prévu. Et meilleur au sens où va leur être appliqué un accord qui a aussi fait parler dans les médias, qui a été négocié il y a un an et demi, qui est la cessation anticipée d'activité, ce qu'on appelait à une certaine époque un système de pré-retraite, et qui va permettre à toute la vieille génération des agents du fret de pouvoir terminer leur carrière de cette manière-là, en partant en pré-retraite. Et ça va. Alors, c'est positif parce que c'était une demande de ces agents-là. Le mouvement a permis d'obtenir une revendication que tous les agents du fret nous ont remercié d'avoir obtenu. Enfin, ils nous ont remercié, puis on a quand même fait le 21 novembre, on a fait
une belle manifestation.
Une grève, et puis le 12 décembre, il y a eu quand même un certain niveau de grève qui était pas ridicule. Il n'était pas suffisant pour engager une grève reconductible, mais il n'était pas ridicule pour autant. Mais du coup, c'est triste parce que ce qu'on leur a obtenu, c'est la garantie de pouvoir partir dans des conditions de travail et des conditions financières correctes. Donc, on a juste négocié correctement la fin de quelque chose qui est un crève-cœur pour tous les cheminots et ceux du fret en particulier.
Oui. Alors, les enjeux du fret. En termes d'environnement et même d'économie du système ferroviaire, qu'est-ce que c'est ?
C'est d'autant plus cette situation de fret SNCF et derrière fret SNCF de l'ensemble du fret, parce que pour vous dire, certains de ces 23 flux qu'on a sommé à fret de donner à la concurrence, certains des concurrents qui n'étaient pas prêts à ça ne les ont même pas repris. Donc il y a en plus une perte sèche pour le transport ferroviaire de marchandises, de transport ferroviaire. Pourtant, tout le monde n'arrête pas de dire qu'il faut décarboner nos économies. Or, le champ du transport représente un tiers de l'émanation des gaz à effet de serre. Et le transport de marchandises, une part non négligeable de ces 30%. Et rationnellement, l'action publique devrait favoriser une ossature du transport de marchandises qui soit le fer, et puis réserver le transport de marchandises par route à la messagerie, on va dire, et puis aux trajets terminaux. Je reprends l'exemple de la Suisse et de l'Autriche. La Suisse est exemplaire au sens où ils sont dit par un référendum populaire, d'initiative populaire, une votation, comme ils disent là-bas, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas laisser leur vallée alpine devenir des réservoirs à pollution, comme l'est aujourd'hui en France la vallée de l'Arve, qui est la vallée qui permet de monter au Mont Blanc et qui est l'endroit de France le plus pollué, même plus pollué qu'au centre, que la région parisienne ou que la région lyonnaise. Je préfère la région lyonnaise parce que c'est une cuvette. La météorologie au-dessus de Lyon est plus défavorable encore à la pollution que sur l'agglomération parisienne. Mais c'est la région la plus polluée de France. Et ben les Suisses ont dit, nous on veut pas de ça. Et donc le transport de marchandises, ça doit être par fer. Et on se donne les moyens d'eux. On construit des tunnels parce que la géographie de la Suisse, c'est pas la géographie qui est la plus facile pour le ferroviaire.
Non.
C'est des montagnes, ça monte, ça descend, tout ça, c'est compliqué, il neige en hiver, etc. Ça coûte très cher de construire et d'entretenir un réseau ferroviaire en Suisse. Eh bien, ils se sont dit, on y met les moyens et ils dépensent, je ne sais plus exactement les ordres de grandeur, mais entre 10 et 15 fois plus d'argent par habitant pour la création du système ferroviaire en Suisse qu'en France. Le tunnel du Mont-Saint-Gothard est plus long encore que le futur tunnel dont on parle beaucoup, Lyon-Turin. Donc on fait des infrastructures ferroviaires, pas routières, très lourdes. Et à partir du moment où une liaison ferroviaire est possible, on interdit ou on décourage le transport routier alternatif. Et donc la Suisse, non seulement construit les tunnels du Mont-Saint-Gothard par exemple, mais elle finance en Allemagne, en France, en Italie et Liechtenstein, on s'en fout, en Autriche, elle finance des plateformes pour faire monter les camions sur le trafic international, pour faire monter les camions sur des trains, traverser la Suisse en train. Et donc, elle se donne les moyens pour ça. Et aujourd'hui, la part du transport de marchandises en Suisse est au-delà de 40%. Je vous rappelle, en France, c'est moins de 8%. Et donc, il y a voilà, une action publique cohérente par rapport à une par rapport à un constat au départ qui est on ne peut pas laisser on ne veut pas d'un pays qui soit complètement bouffé par la pollution atmosphérique. Mais du coup, on organise tout le transport par rapport à ça. En France, et puis. Il y a un intérêt technique aussi à développer le ferroviaire, qui est que le ferroviaire, c'est une économie à coût fixe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit l'infrastructure ferroviaire, l'infrastructure technique, le réseau, qui coûte très cher, ce sont des investissements publics qui coûtent effectivement très cher, hein, faire rouler un train ou 10 trains sur une portion de voie, ça coûte à peu près la même chose. Parce que ce qui a coûté cher, c'est la construction de la ligne et l'entretien de la ligne. Et après, les coûts variables, c'est-à-dire le nombre de trains que vous pouvez faire circuler, c'est minime par rapport aux coûts fixes. Donc quand on a une économie de coûts fixes comme ça, quand on a une entreprise qui est fortement impactée par les coûts fixes, la logique économique voudrait qu'on sature l'infrastructure. Quand vous avez une entreprise sidérurgique qui avec des laminoirs, etc., vous n'attendez pas la commande, il faut que ça tourne, quoi. Hein. On n'arrête pas une usine qu'on arrête et qu'on fait repartir comme ça, ou les usines pétrochimiques, il faut qu'il y ait toujours un flux. Donc il faut absolument le rentabiliser. Et en France, au contraire, on a une vision malthusianiste du ferroviaire où on demande au ferroviaire d'être aussi compétitif économiquement que le routier qui, lui, repose sur le dumping social. Ça n'est pas possible. Je reviens sur les autoroutes ferroviaires, par exemple. On crée effectivement une autoroute ferroviaire de Wapi à Perpignan, par exemple. La logique aurait voulu qu'on dise, ben voilà, il y a une possibilité ferroviaire de foutre les camions sur les trains à Wapi et de les récupérer à Perpignan et dans l'autre sens. Et ben, dans ces cas-là, on interdit le trafic routier entre Wapi et Perpignan, et tous les camions qu'on chope sur l'autoroute à 6, à 7, à je sais pas combien, ils se prennent une amende si on s'aperçoit que leur trajet, c'était Allemagne, Espagne, ou Pays-Bas, Espagne, etc. On ne le fait pas. Au contraire, on favorise... On demande simplement à l'autoroute ferroviaire d'être aussi compétitive que de passer directement par l'autoroute routière. Et
c'est problématique.
Et c'est problématique, oui. Et en plus, le faire rouler des trains ferroviaires, ça résout certains problèmes techniques. Parce que les trains de voyageurs sont légers et il y a tout un système technique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un système technique qui fait que faire rouler des trains lourds qui écrasent toutes les impuretés sur le rail, ça favorise le bon fonctionnement de plusieurs systèmes techniques qui assurent le suivi de tous les trains, toutes les natures de trains sur les rails. Et donc, on a tout intérêt techniquement et économiquement à saturer l'infrastructure. Et en fait, le rapport au transport ferroviaire et en particulier de marchandises en France fait exactement le contraire. Donc, on a vraiment une logique de décadence au lieu d'avoir une logique de développement du ferroviaire, du transport de ferroviaire de marchandises. Et tout en rappelant, parce que nous sommes à Radio Libertaire, que la Fédération anarchiste et les anarchistes, d'une manière générale, ont déjà réfléchi à la décroissance, etc. Tout en rappelant que l'objectif n'est pas de multiplier les trafics de marchandises. L'objectif est de les réduire à terme, parce que c'est le fameux pot de yaourt qui fait ses 8000 km entre le lait et le pot de yaourt, il y a 8000 km qui sont en vent. Et notamment, c'est le cas entre la France et l'Italie. Il y a beaucoup de choses qui font l'aller-retour entre la France et l'Italie. Il y a sans doute entre 50 et 70% du trafic de marchandises qui n'est là que pour faire fonctionner le système capitaliste.
Tout à fait.
Si on relocalisait les économies de manière générale et si on avait une économie plus frugale, il y aurait beaucoup de transports de marchandises qui seraient à éviter. Mais ça, c'est sur une perspective longue. Que ce soit la perspective qu'on se donne à 10 ans et qu'on cherche à atteindre à 10 ans, qui est déjà en fait assez court, mais à 10 ou 15 ans, qu'au moins pendant ces 10 ou 15 ans, le transport se fasse par fer et pas par route.
Alors, que dire de la tentative de RailCop ?
Oui, alors RailCop, c'était une tentative un peu particulière. Alors, RailCop, c'est une proposition qui est née sur la base de l'éclatement du système ferroviaire. Donc, sur ce plan-là, Sud-Rail était contre. Malgré tout, sur le plan du rapport aussi au transport ferroviaire, il y avait quelque chose qu'à titre personnel, je trouvais intéressant. Sur la partie fret, parce qu'ils avaient deux projets, d'une part faire Bordeaux-Lyon, et d'autre part, sur Figeac-Toulouse, ils avaient imaginé un train qui était préformé avec des wagons qui sont là, qui avec une relation qui était prédéterminée, qui passe dans telle gare à telle heure, et sans attendre la commande, il disait aux clients, aux entrepreneurs le long de cette ligne, ben vous venez avec votre palette dans telle gare, le train il s'arrête là, il y a des wagons qui sont là, vous foutez la palette dans le wagon, on descend tout ça sur Toulouse, ou on le remonte de Toulouse à Figeac, et autrement dit c'était pour offrir un transport par fer sur une petite distance qui soit aussi souple que le transport par camion. Et je trouvais que c'était intéressant le rapport, plutôt que d'attendre un client qui dise moi je veux faire du transport ferroviaire, mais alors du coup il faut que je sois embranché, il faut ceci, il faut cela, on leur dit il y a le train qui passe, tu viens avec ta palette, il y a un transpalette, et puis on fout la palette sur le wagon et c'est emmené. C'est la technique dite du tapis roulant, où on fout la palette sur le tapis roulant, puis quelqu'un
le réceptionne
à l'arrivée. Et donc, comme rapport au transport ferroviaire, c'était intéressant. Malheureusement, l'expérience RailCop a fini en dépôt de bilan.
Oui. Une conclusion, René, rapide. Jean-René, pardon.
Une conclusion, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux.
Merci Jean-René. Alors, je vous remercie chers auditeurs et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Vraiment, faites attention à vous. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure, ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser les défauts de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin, j'étais blessé chez mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. La rage. La rage. La rage.
ego si am, ot veninta del corpo che canto la flor, flor de l'am intervinter ni esperan. Di la cinvenuce mi, aura grec, aura franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperan.
Esperanto. Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento.
Saluton, saluton al ciu.
Saluton.
Saluton.
Saluton Acolito.
Saluton al agoscultantoi.
Yes.
Kai saluton al Serge, qui présente la technicon.
Saluton.
Ciu, bonne.
Donc bonjour aux auditeurs.
Donc technique ciu, bonne funzia, Serge.
Si.
Bon, techniquement, hein, donc
yes,
voilà,
yes.
Tout fonctionne. Radio Esperanto, et la cadre de Radio Libertaire, au Gdeknao, Kumbogvar, Pega Herzoy, car il y a un téléphone numéro qui est le coutumé. Nulo Unu, Gvardek Tri, Sebdek Unu, Ogdeknao, Gvardek. Yes. Kai, yes, Radio Liberté reste la radio de la anarchiste Federatio, la radio Sen Mastro, Sen Dio, Kai Sen.